Le récit de Joe. Ce que tu ne sauras jamais, Follette. Un pigeon égaré me frôle. Je l'écarte de la main gauche, sans cesser de braquer mon Glock. L'oiseau s'élève aussitôt pour se réfugier dans le haut du silo. J'ai compté les secondes dans ma tête. Follette doit avoir reçu sur sa messagerie les confessions de Vidame. Elle doit les avoir enregistrées, puis écoutées. Maintenant, elle sait. Tout le monde sait. Pourtant, droit devant moi, Richard Vidame n'a rien perdu de sa morgue. Il paraît simplement énervé d'avoir consacré un peu trop de temps à une telle corvée. Vous êtes content, Joe? Vous avez exécuté votre petit numéro? Vous avez envoyé votre message à votre fille chérie? Et après, je vous l'ai dit, des aveux sous la menace d'une arme ne valent rien. Je nierai tout quand la police viendra m'interroger. Les flics comprendront que vous m'avez soufflé cette fable, que je me suis contenté de la répéter pour sauver ma peau. Vidame me défie du regard. Il espère vraiment s'en tirer comme ça. Il croit qu'il peut se contenter de me tourner le dos après avoir récité sa leçon. Je lève ma main droite et mon pistolet toujours pointé dans sa direction. Une fable, Richard ? Je crois que si les flics spécialisés dans les fraudes financières mettaient vraiment le nez dans les comptes de votre association, ils n'auront aucun mal à découvrir vos magouilles, à commencer par l'héritage d'Ophélie dont elle n'a jamais entendu parler. Faudra bien que vous expliquiez comment elle n'a jamais touché les millions que sa grand-mère lui a légués. Et je suppose qu'elle n'est pas la seule des bénéficiaires de l'Astur dans ce cas. Vidame soupire. Il joue au lion agacé par un moucheron. Il observe avec énervement, 100 mètres plus haut, jusqu'au toit gris du silo, le balai désespéré des pigeons prisonniers. Nous pouvons nous parler franchement, Joe? Vous avez coupé votre mouchard? Oh, et après tout, vous pouvez continuer d'enregistrer si vous voulez. Nous sommes d'accord, je n'ai pas toujours respecté les règles de notre sacro-sainte administration. On pourrait même me qualifier d'arnaqueur, d'escroc, ou même d'ordure pour avoir volé ce qui ne m'appartenait pas. Employez les mots que vous souhaitez. Mais je ne suis pas un assassin. Et vous le savez. Je ne réagis pas. Mon regard passe sans cesse de Vidame à l'écran de mon Nokia. J'attends. J'attends un dernier message avant d'écrire le mot fin. Cette fois, Vidame s'agace. Est-il pressé? A-t-il hâte de rentrer chez lui? D'aller admirer une dernière fois le plus beau panorama de Rouen du haut de son fortin? De serrer dans ses bras Rosanna ou l'une de ses maîtresses? Il esquisse un geste de la main, mais le canon du Glock le dissuade de tout mouvement de révolte. Il laisse petit à petit une colère immobile l'emporter.
Expliquez-moi, Joe, je ne comprends pas. Pourquoi m'avez-vous obligé à mentir à votre fille? Pourquoi voulez-vous me faire porter le chapeau? M'avoir ruiné, avoir foutu en l'air tout ce que j'ai construit, ça ne vous suffit pas?
Je ne prends même pas la peine de lui répondre. Kling, le message que j'attendais vient d'arriver.
Enfin merde, Joe! Qui pourrait croire que j'ai pu renverser Maya avec ma voiture, l'écraser comme un vulgaire lapin et me tirer?
Je lis ton message, Ophélie. Tu es en paix. Maintenant que tu sais que ta haine n'était pas vaine. Je lève un instant les yeux et je murmure. Ophélie le croira. Puis je relis encore et encore ton message qui s'affiche sur mon Nokia. Ces trois mots que j'ai attendus pendant toutes ces années. Je t'aime, papa.